L'affaire Mediator, dont le procès se déroule en ce moment, a mis en lumière le rapport dangereux entre les laboratoires et les médecins, des relations sources de conflits d'intérêts. Bonjour Alexandre Boyer.
Bonjour.
Vous êtes professeur d'université, réanimateur au CHU de Bordeaux, et avec d'autres médecins, notamment Irène Frachon, qui a révélé le scandale du Mediator, vous publiez une tribune dans le journal Le Monde pour dénoncer le poids des laboratoires. Vous écrivez notamment que dans le monde médical, le terreau des conflits d'intérêts reste fertile. Que voulez-vous dire ?
Écoutez, en plein procès Mediator, à un moment où nous sommes supposés voir mieux que jamais les conséquences des liens dangereux, les liaisons dangereuses, comme vous dites, des laboratoires avec les hôpitaux, je pense que dans mon quotidien, j'ai envie de dire, je vois encore de nombreux problèmes. C'est la raison pour laquelle j'ai mené un groupe de travail il y a deux ou trois ans, enfin qui a commencé il y a deux ou trois ans, pour essayer de prévenir les conflits d'intérêts au CHU de Bordeaux. J'ai eu le soutien d'ailleurs de mes institutions pour cela. Et écoutez, au terme de ce travail, je pense qu'il faut essayer effectivement d'écrire ce genre de tribune, non pas pour dénoncer uniquement, comme je vous entendais dire tout à l'heure, mais bien entendu pour faire aussi des propositions.
On va y venir, mais pour qu'on comprenne, quand vous dites qu'il y a des problèmes dans votre quotidien, par exemple, c'est quoi ? Parce qu'évidemment, des scandales type Mediator, il n'y en a pas tous les jours.
Non,
mais ce que vous dites, c'est que des conflits d'intérêts, à tous les niveaux, ça pose problème.
Oui, mais si vous voulez, par exemple, ce que révèle le procès Mediator, c'est que un médicament qui avait une indication pour le diabète a été dérivé de son indication pour être donné dans une autre indication,
comme
pour laquelle il était dangereux en tant que coupe-faim. Eh bien, ce qu'on appelle ça, on appelle ça les dérives off-label. Bon, c'est le terme consacré. Eh bien, ça, c'est quelque chose que l'on voit tous les jours encore. C'est-à-dire que les médicaments rentrent sur le marché pour lequel ils sont remboursés dans une indication et sous la pression de la visite médicale, la visite de l'industrie pharmaceutique, on voit les indications s'élargir et à ce moment-là, bon, effectivement, comme vous le dites, heureusement, tout n'est pas dangereux, bien entendu, comme peut l'être le Mediator, mais l'autre problème qui est alors à ce moment-là très important, c'est que ça nous coûte très cher. C'est l'autre aspect des choses.
Ces visites médicales, comment elles sont-elles encadrées ? Qu'est-ce qui est interdit ? Qu'est-ce qui est autorisé ? Est-ce qu'on a toujours le droit de faire des petits cadeaux aux médecins, de les inviter au restaurant, des choses comme ça ?
Alors oui, c'est toujours possible. Ça devient un petit peu plus dur, mais par exemple, il est toujours possible d'inviter les médecins au restaurant de façon impromptue, dit la loi. Vous voyez un petit peu de la difficulté de la mettre en pratique,
oui.
C'est-à-dire qu'en fait, cela continue. Non, la visite est encadrée par un certain nombre de textes réglementaires, mais la façon dont ça se met en place en pratique, par exemple suite à mon rapport au CHU de Bordeaux, on est en train de travailler avec ça, sur ce sujet, c'est assez flou et aucun CHU ne fait pareil que l'autre. C'est bien pour ça qu'une des propositions est quand même d'homogénéiser dans les CHU ces règles-là.
Vous n'avez jamais accepté de déjeuner ou un petit cadeau de la part d'un laboratoire ?
Ça m'est arrivé, bien sûr.
Vous le regrettez ?
Ça m'est arrivé.
Mais... Ou vous dites que parfois c'est utile aussi parce que pour se tenir au courant des nouveautés, des nouveaux médicaments, ça sert ?
Bien sûr, il y a cette fonction-là. De toute manière, moi je n'ai pas un jugement moral sur mes collègues qui acceptent ça. J'espère qu'on aura le temps d'y revenir, mais je pense que c'est au contraire très important qu'il y ait un partenariat qui continue entre l'industrie et les médecins. Donc il ne s'agit pas de couper les gens. Mais par contre, à partir du moment où des liens se font, alors le restaurant, je ne sais pas, mais évidemment, il s'agit de liens souvent un petit peu plus importants, à partir du moment où des liens se font, il faut que ça ait des conséquences, notamment au moment de prendre des décisions d'achat, par exemple, de ces médicaments ou des décisions de prescription. Je pense que là, par contre, on est à une autre étape. Il faut que l'indépendance soit mise en place.
Et il y a un point intéressant dans votre tribune, vous expliquez qu'en fait, ça vient aussi du goût des médecins pour l'innovation.
Tout à fait. Mais heureusement, ça suit ce que je viens de dire.
Ils ont tendance à privilégier des nouvelles molécules ou des nouveaux médicaments.
Bien sûr, et donc c'est une fois de plus, je le dis, c'est très important que les médecins continuent de travailler avec l'industrie. Sans l'industrie, on ne peut pas mettre au point les médicaments, clairement. Donc l'idée vient souvent du monde médical, et public en particulier, je le dis, de brevets publics. Mais ensuite, l'industrie est extrêmement importante, en effet, pour relayer. Ce que nous voulons dire, c'est qu'il y a une autre phase, un petit peu après cette innovation, pour qu'elle soit vérifiée scientifiquement de façon indépendante et qu'elle s'applique au bon malade, au bon moment, pour éviter des dérives comme celles que le Mediator a révélées.
Parce qu'aujourd'hui, c'est vérifié par qui ?
Mais aujourd'hui, ça peut être vérifié, par exemple, par des études financées par les mêmes laboratoires qui sont au début de la chaîne. Mmh. Hein, donc ça, c'est également une des propositions. C'est des propositions qui ont été faites dans d'autres pays qui ont à peu près les mêmes systèmes de santé que les nôtres. C'est-à-dire vraiment de séparer la phase de mise au point de la phase de validation scientifique. Et j'ai envie de dire, les laboratoires n'ont rien à craindre. Si leur produit est efficace, pourquoi ne pas le faire vérifier de façon indépendante par d'autres ?
Vous dites qu'il faut mieux cloisonner, et ça vaut aussi d'ailleurs pour les partenariats publics-privés. Ça aussi, c'est quelque chose que vous soulignez.
Alors, ça, je souligne ça parce que ça, c'est une affaire quand même assez importante. D'ailleurs, que la cellule d'investigation de France Inter a contribué à révéler il y a un an. Ça, c'est une affaire un petit peu plus délicate. Là, nous y opposons parce qu'il s'agit, pour certains industriels, d'installer des blocs opératoires dans des hôpitaux publics. Donc, si vous voulez, tout le monde est content au premier regard. Le directeur, parce qu'il n'a pas à financer lui-même ces blocs opératoires. Les médecins, parce qu'ils travaillent dans des blocs opératoires tout neufs. Ils sont souvent, ces mêmes médecins ont des liens d'intérêt avec l'industriel qui a fait le bloc opératoire. Bien entendu, les patients peuvent aussi en avoir un intérêt, mais il y a une contrepartie qui est moins visible. C'est que, bien entendu, il faut faire un certain nombre d'implantations du dispositif. Il y a un contrat, en fait. C'est jamais gratuit. L'autre contrepartie qui est moins connue, c'est qu'évidemment, le coût de ce bloc opératoire installé est répercuté de façon un petit peu diluée dans le prix du dispositif qui ensuite va être installé. Donc vous voyez, ils rentrent à ce moment-là dans l'hôpital. Au début, on pense que c'est gagnant pour tout le monde, mais en fait, il y a une contrepartie, et j'ai envie de dire la contrepartie, qui la paye, c'est la sécurité sociale, c'est-à-dire c'est vous et moi.
Vous dites aussi dans cette tribune qu'il faut agir le plus tôt possible dès les études, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne met pas en garde suffisamment les étudiants en médecine.
C'est le point majeur, je pense, qu'il faut vraiment transformer, c'est-à-dire qu'effectivement, actuellement, à de rares exceptions, et je salue Marco Romero, qui est un des co-auteurs de cette tribune et qui a mis en place une formation à l'indépendance, c'est-à-dire à tous ces risques dont nous venons de parler pour les internes de médecine générale de la région de Bordeaux et qui compte le mettre en place pour toute la France. Et moi et Guillaume Thierry, donc un autre de mes co-auteurs, nous allons mettre ça en place dans notre spécialité qui est la réanimation. C'est extrêmement important que dès un certain âge, il ne faut pas que ça arrive trop jeune, il faut quand même que le médecin soit déjà en contact avec la prescription, soit déjà en contact avec le monde réel dans lequel il travaillera. Mais à ce moment-là, très jeune, il faut le protéger de ces risques et l'informer de toutes les techniques de marketing, de communication. Je coordonne l'enseignement de la lecture critique d'articles. Je ne sais pas si
ils sont encore un peu naïfs.
Ils sont naïfs et donc on leur apprend. Ça, c'est quand même une décision politique très forte qui a été prise, puisque maintenant on apprend à tous les étudiants à lire la littérature scientifique. Donc il faut rajouter, je dirais, ces notions d'indépendance. Pourquoi un médecin doit être indépendant au moment où il choisit un médicament pour un de ses patients? C'est essentiel.
Une dernière chose, dans cette tribune, vous citez régulièrement les États-Unis. Ils sont plus vigilants que nous dans ce domaine, plus stricts?
Oui, ils sont plus vigilants pour une raison extrêmement simple, c'est qu'aux États-Unis, les soins sont payés par des mutuelles privées, en grande partie, et les mutuelles privées, elles n'ont pas du tout envie de consommer de l'argent inutilement, ou d'avoir remboursé des médicaments qui sont dangereux pour les patients. Donc c'est sous la pression, finalement, d'une autre industrie privée, qui est l'industrie des mutuelles, que les Américains sont en pointe, effectivement, contrairement peut-être à ce qu'on pourrait penser intuitivement sur ces questions-là.
Merci Alexandre Boyer, professeur d'université, réanimateur au CHU de Bordeaux, et je renvoie au site internet du Monde, donc, qui a publié votre tribune que vous avez écrite, avec d'autres collègues que vous avez cités au cours de cet entretien. Merci d'être venu.
Merci beaucoup.